communiqueront avec des robots en 2050. Voici la preuve.
Ce que tu as vu dans la rue sont des transhumains. Ils peuvent contrôler la technologie par la pensée.
Quelle folie!
Ah bah les transhumains!
Les transhumains!
Bonjour maman, c'est Robert. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Tiens-toi bien, je suis un robot.
Les transhumains!
Ça devient de plus en plus n'importe quoi, ouais, les jingles. Ouais.
Il est 1h12, on est vraiment en plein cœur de la nuit. D'ailleurs, Paris va nous donner des visions du futur.
Exactement. Paris va vous donner des visions du futur.
De ton Radio Campus. On écoute ça tout de suite. Qu'est-ce que vous en dites?
Grave.
Allons-y.
Même si on attend l'interview de Robert.
Grave.
C'est parti. On écoute ça tout de suite.
Est-ce que tu peux me dire comment tu imagines les hommes et les femmes du futur, dans un futur très lointain?
Un peu comme maintenant.
Égaux, j'espère. Sinon, comment est-ce que je peux les anticiper?
Peut-être un peu plus propre. Voilà. Bah, parce qu'on est sale, hein. Ouais, je pense qu'on est sale.
Je les vois pas si différents qu'aujourd'hui, physiquement en tout cas.
Si je me plais à imaginer les hommes et les femmes du futur, ce serait avec plein d'implants cybernétiques dans tous les sens, un peu à la cyberpunk, quelque chose de très futuriste, genre où justement on peut devenir être un peu ce qu'on veut, quoi.
Non.
On s'achemine vers une guerre des sexes.
Non mais je sais pas, dans longtemps, dans 1000 ans. Technologique. Bourré de technologie.
Les hommes et les femmes du futur. Oula.
Les hommes doivent accepter de perdre du terrain dans la guerre des sexes, c'est évident. Bon, ça fait des siècles qu'ils ont le pouvoir, donc qu'ils perdent du terrain pendant quelques années, ça me paraît justifié.
On part dans une thématique vraiment féministe, ouais. Là ?
Accepter sa part de féminité, c'est évident. Mais il faut surtout pas... Enfin, je sais pas, il faut... À partir du moment où t'es un bonhomme, voilà, t'es un bonhomme, faut l'assumer, quoi.
Si on continue sur cette lancée féministe-là, la notion de genre... deviendra beaucoup plus mince et beaucoup plus perméable, et on peut espérer que le stéréotype de l'homme viril et de la femme un peu douce et fragile sera un peu écroulé.
Ça me paraît bien compliqué dans la mesure où un sexe est un sexe. En revanche, j'invite les hommes à vraiment épouser et accepter leur part de féminité. Ça me paraît primordial.
Oui. Oui.
Pour citer une phrase, s'il y avait un troisième sexe, je pense que je ferais tout pour le baiser.
Pourquoi, il y a une invention du troisième sexe, d'un troisième sexe qui est à l'œuvre ou...
Moi, j'imagine plutôt une pseudo-annihilation du genre, plutôt qu'un troisième genre. Mais le genre, c'est une chose, et le sexe biologique, c'en est une autre. Donc, la question de la reproduction biologique sera toujours la même.
Mais je pense que malheureusement, dans le futur, on arrivera à la recherche de la perfection, ce que je pense est assez triste, et ce que j'espère que les gens lutteront contre, mais je pense que ce sera quelque chose qui sera très technologique, très informatisé, et plus très humain, justement.
Là, je suis pas trop pour.
Ça m'embêterait qu'on fasse des petits robots, qu'on choisisse les yeux, la couleur des yeux. Enfin, on entend ça de plus en plus, qu'on pourra choisir qu'ils soient parfaits, qu'ils soient... Hein. Enfin, voilà. En espérant qu'on change notre vision de la perfection. Que ce soit qu'on reste... On reste humain. Voilà.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, madame.
Bonsoir, madame.
Bonsoir, monsieur.
Eh bien, donc on a écouté, pardon. Ça commence à être un peu difficile après une heure du matin.
Pas du tout.
C'est
pas
ça
du tout.
Non, mais pas.
C'est très bien.
Absolument pas. Donc, on écoutait un petit micro-trottoir fait par Corentin de Radio Campus Paris. On lui fait un bisou, il nous écoute. Et on continue avec une interview par Vanessa et Mag.
De Vanessa et Mag.
Ça y est. Voilà. Bon, je ne sais pas.
Fatiguée.
Pas du tout. Donc, une interview de Vanessa et Mag sur les sextoys du futur.
Que j'ai réalisé.
Que Mélanie a réalisé.
Et sur les imprimantes 3D.
Et sur les imprimantes 3D qui permettent de faire des sextoys du futur.
Exactement.
Hey, tout un programme.
Ça va être super. On écoute ça tout de suite.
5, 4, 3, 2, 1, mise à feu.
Vanessa Brunet, bonsoir, merci d'être avec nous pour cette nuit du genre. Vous avez notamment étudié les questions de genre, le féminisme, le post-porn. Vous êtes avec nous pour nous parler notamment du do-it-yourself. Je vous laisse vous présenter en quelques mots, si vous le voulez bien.
Eh bien, avec plaisir. Donc, bonsoir, merci de me recevoir. Effectivement, j'ai eu à Bourges l'occasion d'aborder les sujets que vous avez évoqués via l'École des Beaux-Arts et surtout l'enseignante Nathalie Magnan qui avait ouvert un bureau de recherche là-dessus et l'association Emetrop. Et par la suite, j'ai poursuivi plus vers les questions hack, do it yourself, via le milieu hackerspace.
Alors, je vous propose, avant de commencer l'entretien ensemble, d'écouter un enregistrement qui a été effectué au Festival 01, organisé par le Labo Média d'Orléans. On l'écoute tout de suite et ensuite, on réagit ensemble.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir pourquoi fabriquer son sextoy soi-même.
Ah, c'est tout.
Entre autres.
Pourquoi fabriquer son sextoy soi-même? Bah, au départ, oui, ça a commencé à partir de Vanessa, qui faisait partie du Zinette, donc, et qui a participé au développement de l'imprimante 3D, qui s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup avec cette machine-là? Et vu qu'elle avait fait pas mal d'études et d'actions aussi artistiques à l'École des Beaux-Arts de Bourges, qui est vachement branchée sur les questions de genre, le post-porn, tout ça, bah, elle est tout de suite partie dans cette idée-là de faire des sextoys avec l'imprimante 3D. C'est une idée qui avait été avortée, et puis que moi, j'ai aidé à relancer. En retombant, en fait, moi je m'intéressais du coup aussi à l'imprimante 3D. Et du coup, je tombe sur des photos où justement je vois son démarrage de projet de sextoy avec l'imprimante 3D. Donc je la recontacte, elle me dit oui, bon, ça marche plus. Enfin bref. Et on relance du coup le projet ensemble au Theta Lab Hackerspace Festival en mai de l'année dernière. Voilà. Donc là, ça redémarre. Donc maintenant, c'est un projet qui fait plus partie d'Usinette. On a monté une plateforme collaborative qui s'appelle .org. Du coup, là, l'idée, c'est plutôt, enfin, en fait, on parle plus d'éducation sexuelle collaborative, et du coup, l'imprimante 3D, c'est plutôt un moyen parmi d'autres, en fait. Donc ce qui nous intéresse, c'est pas tant le sextoy, mais plutôt décloisonner, en fait, toutes les questions autour de... Bah, de la sexualité, parce qu'on sexualise tout, enfin tout est sexualisé dans notre monde aujourd'hui, mais on parle pas de sexualité et encore moins de plaisir, on parle plutôt de reproduction, de fertilité, de maladies, enfin de problèmes, tout ça, mais on n'apprend pas à écouter notre corps, à s'écouter et à en parler aussi entre nous. Il y a pas mal encore de tabous, donc là, voilà. Comment on peut s'émanciper, en fait, globalement, quoi. S'émanciper des technologies en restant que sur des projets open source et principalement do it yourself, mais on va aussi s'émanciper de notre propre conditionnement qui est en lien avec notre vie de tous les jours, notre corps, tout ça.
C'est ce qu'utilise la pub par exemple, faisant appel à notre désir et à notre plaisir pour des produits.
Ouais, carrément. Et du coup, l'imprimante 3D remet en question ça. Donc, finalement, c'était aussi un jeu et puis une façon de boucler la boucle, de dire que si ça nous permet de repenser à nos besoins et à nos désirs, autant en parler vraiment de justement ces besoins et ces désirs-là, qui sont aussi fabriqués par la norme de toute façon. Donc voilà, donc nous on essaie de bousculer un peu tout ça sur notre site internet, justement sur notre plateforme .. On a aussi des ressources justement pour essayer de réfléchir autrement. Donc il y a des ressources théoriques, pratiques, philosophiques, il y a pas mal de... Enfin là, on glane, on essaye, parce que c'est pas évident à trouver des choses sur la gynécologie alternative. Et on se revendique ni de féminisme, ni de post-porn, ni de tout ça. Justement, on cherche à plutôt avoir une approche transversale.
Du jouir sans entrave 68 ans.
Oh là là, alors on est anti-étiquette, mais on peut dire un truc comme ça, peut-être.
Et comment ça fonctionne, du coup
Et du coup, comment ça fonctionne? On fait beaucoup de collaborations. et du coup, nous, on a une imprimante 3D qui est en cours de fabrication. Mais vu qu'on a pas mal... on ne vit pas dans les mêmes villes toutes les deux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se déplace régulièrement, donc comme ici à la Fête des 01, pour travailler ensemble et avec d'autres gens. Donc à chaque fois, ça nous permet aussi de croiser d'autres pratiques, d'autres moyens, etc. Donc là, pour le moment... On a surtout réussi à imprimer des objets grâce à l'imprimante de collègues qu'on a croisés.
Vous en avez fabriqué des sextoys?
On a fabriqué quelques-uns qui sont plus des prototypes qu'autre chose. Hein. Parce qu'après, l'idée, c'est de rien vendre et de plutôt penser à du sur-mesure et du do-it-yourself.
Donc, les fichiers sont en open source sur votre site et puis on peut les adapter pour soi?
Ouais, ou après, justement, l'occasion d'atelier, c'est l'occasion aussi de modéliser son propre objet ou de délirer à en dessiner et après on essaie de les modéliser et de les imprimer si on a ce qu'il faut sur place. Donc on a aussi des projets avec d'autres matériaux comme la résine, silicone. Là, je suis en train de réfléchir à une pièce avec des gants MAPA et des mini vibreurs. voilà, c'est assez. Ben voilà, l'idée c'est un peu d'explorer tous les possibles dans ce domaine-là. Donc on est plus généralement sur le corps, les sens et le plaisir.
Alors Vanessa Brunet, vous êtes toujours avec nous sur les ondes de Radio Grenouille dans la nuit du genre. Le projet point 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 qu'on vient d'entendre dans cet entretien est une initiative collective et collaborative d'expérimentation, de recherche, d'échange aussi autour du désir, de l'érotisme et de la sexualité. Alors pourtant, ce qui a trait au domaine de la sexualité est pourtant de l'ordre assez privé et il est néanmoins très normé. Donc est-ce que ce projet est une façon de s'affranchir de ces normes dans le domaine de la sexualité ?
Oui. Alors, il faut savoir que dans le projet.org, le sextoy à faire soi-même, c'est une partie du projet. Comme l'explique Magali, il est question de aussi partager de la connaissance sur plein d'autres choses, notamment la gynécologie alternative. L'objectif, c'est vraiment de créer un savoir collectif, c'est-à-dire que les gens participent. Pour le moment, le savoir, il est essentiellement théorique, intellectuel, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais voilà, c'est que l'idée, c'est une fois de plus, de se réapproprier et de créer notre propre savoir collectif. En ce qui concerne les normes, chaque individu est différent. Et à partir du moment où on va parler ensemble de désir, de sexualité, sans pour autant rentrer dans une intimité, c'est-à-dire qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a un mensonge sur l'intimité et la pudeur, et puis parler de sexualité. Je pense que la censure de parler de sexualité, c'est une très bonne manière de justement rester de garder les gens en ignorance. Quand les gens comprennent qu'on peut changer sa sexualité sans pour autant s'exposer intimement, c'est enrichissant.
Mais fait, la sexualité, c'est très politique. Est-ce que de votre point de vue, c'est un objet qui n'est pas forcément à exposer aux yeux du monde, mais c'est quand même très politique. Ça peut entraîner ce genre de message.
Mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'il est question de... le politique, il s'exerce aussi essentiellement par l'ignorance. À partir du moment où on fait se rendre compte des choses et on collabore ensemble pour créer le savoir, on sort complètement du pouvoir qu'on pourrait exercer sur nous.
Bien sûr, et notamment donc, cette façon de rendre autonome finalement l'individu aussi dans le collectif. L'imprimante 3D, pour l'expliquer un petit peu à nos auditeurs, on en entend beaucoup parler, on peut fabriquer beaucoup de choses avec ça. Vous pourriez un petit peu simplifier la chose. Qu'est-ce que c'est une imprimante 3D aujourd'hui ?
L'imprimante 3D, c'est, en tout cas ce qui est intéressant de l'imprimante 3D, c'est une machine open source, qui n'est pas qu'à toutes les imprimantes 3D. Celle que nous on utilise et celle qui est intéressante politiquement et techniquement, c'est celle-ci. Open source, c'est-à-dire toutes les façons de faire, etc., sont documentées sur Internet, accessibles à tous. Tout le monde peut faire évoluer ce projet. C'est un projet qui a été, donc d'une technologie a priori hyper réservée à l'industrie et hyper complexe, a été hyper simplifié de manière à ce qu'elle se démocratise et que tout un chacun puisse avoir accès à cette technique. Politiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que monsieur tout le monde a accès à des choses et du coup peut designer lui-même ce dont il a besoin et envie, peut reconstruire les objets de son quotidien qui sont cassés. Et si vous voulez, ça rompt complètement l'histoire, la séparation du designer, technicien, consommateur. Il n'y a plus qu'une seule personne qui n'est plus soumise à ce qu'on lui propose.
Donc dans le domaine du plaisir finalement, puisqu'on est dans ce domaine-là ce soir, c'est ouvrir des possibles et ouvrir l'imagination, ou en tout cas donner à chacun la possibilité d'exprimer cette imagination-là.
Exactement, et c'est là où je trouve intelligent que vous parliez de désir, c'est qu'il est clairement beaucoup plus question de désir, d'envie, que de sexe. Il y a une espèce de double jeu sur la soi-disant émancipation sexuelle européenne, qui est une émancipation sexuelle de la consommation du corps, de la visibilité du corps, repris complètement par tout ce qui est communication, merchandising, pub géante de nana en soutif, super bonne, refaite sur Photoshop, et une absence totale de vrais discours sur le désir, l'érotisme, les savoir-faire, et ça me rappelle un peu la définition de Foucault qui opposait scientifique sexualiste, c'est-à-dire la vision médicale occidentale de parler de la sexualité, c'est un fonctionnement la sexualité en Occident, à la différence de l'Asie qui était dans l'ars erotica, c'est-à-dire dans l'expérimentation, l'apprentissage du plaisir, du savoir-faire.
Donc on n'est plus pour conclure, dans le jouir sans entrave, mais dans le jouir avec créativité, si on peut dire ça comme ça.
C'est ça, et dans la compréhension que c'est nous qui faisons c'est nous qui décloisonnons.
Tout à fait, merci beaucoup Vanessa Brunet d'avoir été avec nous ce soir. Longue vie aux sextoys et surtout au projet point point point. En tout cas, merci beaucoup.
Oui, et juste un dernier mot, c'est un projet qui est une plateforme amenée à rassembler un maximum de personnes, bien sûr.
Donc je redonne le site internet, c'est point point point, tout écrit en lettres en français, point org, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup Vanessa Brunet, merci.
Merci à vous, bonne
soirée. Au revoir.
Au revoir.
Et nous aussi, on redonne le site, nuitdugenre.tumblr.com ou sur le Twitter de Radio Grenouille pour suivre cette nuit. Il ne reste plus que quasiment une demi-heure ensemble, en direct, et puis après, vous pourrez continuer toute la nuit si vous êtes vraiment des noctambules, jusqu'à 5h30 du matin au premier rayon du soleil. Vous êtes avec nous sur Marseille, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Orléans, Paris, Rennes et Toulouse, je ne cesserai de le dire cette nuit. On continue dans cette exploration du futur.
L'éducation.
Avec de l'éducation.
L'éducation de demain.
L'éducation de demain, Mélanie.
Tu veux en parler? Non, c'est perturbant parce que je pensais que tu parlais à l'autre Mélanie. Excuse-moi.
De Mélanie. L'éducation de demain. Mais on va écouter un reportage réalisé par Clermont-Ferrand, Radio Campus Clermont-Ferrand, qu'on salue bien, sur donc l'éducation genrée du futur.
En cette nuit du genre, je vais me poser la question de l'éducation non genrée, puisque je trouve très important d'aller sur les fondamentaux et sur l'un des constituants de l'individu et de l'enfant, à savoir son éducation. Une éducation non genrée, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une éducation qui n'est pas basée sur les différenciations sexuelles, donc homme ou femme. Et on se rend compte en fait qu'il y a des interprétations genrées et sexuelles dès la naissance, voire dès in utero pour les enfants. Je m'explique, lorsque une dame est enceinte, qu'on découvre que c'est une fille ou un garçon, on commence déjà à visualiser la chambre par des couleurs, on commence déjà à envisager l'avenir de la petite ou du petit, et dès la naissance, les choses se corsent, puisqu'on a déjà remarqué par des études comportementales que les adultes interprétaient les pleurs des bébés d'une certaine manière. Un même bébé qui aura un pleur en étant un garçon sera un pleur colérique. Et un bébé, en tant que fille, aura des pleurs plutôt de tristesse, etc. Donc en fait, dès la naissance, on commence à genrer les comportements et l'interprétation des stimuli, des comportements et des expressions des bébés. On les conditionne au niveau social et on les prédestine, on les moule dans les stéréotypes de genre. Alors les stéréotypes de genre, ce sont des choses qu'on n'aime pas trop dans la nuit du genre. Donc moi, je vais vous proposer de découvrir trois outils pour sortir de ces sentiers rigides de l'éducation genrée. Ces trois outils sont la mixité, le traitement neutre des enfants dès le plus jeune âge, et ensuite un troisième outil qui est quand même plus polémique et plus récent, qui est en fait la non-divulgation du sexe des enfants. Donc je m'explique, éducation non-genrée, la mixité, c'est ce qu'on appelle la coéducation. Elle est apparue en France à la fin du 19e siècle chez les anarchistes, et en fait on a découvert que on pouvait apporter une même instruction aux filles et aux garçons dans des écoles mixtes, donc où on mélange les garçons et les filles dans les classes et dans les matières. La mixité a été très polémique au début du XXe siècle, mais s'est bien développé en France au cours des années 60, avec même une interdiction de classes non mixtes dans les écoles publiques dès 1975. Donc ça, c'est un pas considéré comme en avant par les progressistes, qui a connu une petite marche arrière très récemment, car en France, en 2008, on a voté la loi anti-discrimination, qui, paradoxe des paradoxes, comporte une disposition rendant légales les écoles non mixtes, entre parenthèses, pour satisfaire à des exigences de religion qui faisaient pression. La mixité est donc, on va dire, relativement en danger en France, mais c'est peu de choses à côté du danger qu'on rencontre aux États-Unis, où des tas de lobbying de pédagogues font pression pour développer la non-mixité dans les classes. Un exemple de leur efficacité, en 2002, on avait 12 classes d'écoles publiques non mixtes, et en 2012, on était à 500 classes. Donc une montée en puissance très importante, qui est également relayée en Grande-Bretagne, en Écosse et dans d'autres pays européens. Le prédicat des pédagogues sur l'efficacité de la non-mixité dans les classes, c'est que ça permettrait de pallier à l'échec scolaire des garçons, car évidemment les garçons ont de moins bonnes notes que les filles, donc si on les sépare, ils peuvent peut-être déjà plus se concentrer et réussir de manière plus efficace. La séparation des filles et des garçons privilégierait la disparition de la violence et du harcèlement et permettrait d'avoir une éducation différenciée en fonction des attentes et des capacités des filles et des garçons. Donc on pourrait faire du yoga pour les filles, du foot américain pour les garçons et les inciter de manière différente à s'impliquer dans les mathématiques ou dans d'autres matières. Donc ça, c'est quelque chose de très développé aux États-Unis et qui a tendance à séduire pas mal de pédagogues en France. Donc j'attire votre attention et votre vigilance sur la question.
quelques pistes sur l'éducation non-genrée du futur. On va faire une petite pause musicale avec le grand David Bowie, et quand même l'image du mélange des genres. On rappelle qu'il s'est travesti de nombreuses fois sur ses pochettes d'albums. On écoute tout de suite Lady Stardust dans Les Nuits du Genre.
The makeup on his face, laughed at his long black hair, his animal grace. The boy in the bright blue jeans jumped up on the stage. Lady Stardust sang songs of darkness and disgrace.
Oui, c'est bon, c'était David Bowie. On retourne avec Pop, l'enfant suédois.
Fort heureusement, la mixité n'est pas remise en question dans la plupart des pays européens, et on a même des pays avant-gardistes qui vont plus loin et qui appliquent une mixité très approfondie, que je pourrais même appeler de neutralité, dès la crèche. Alors, je vais prendre l'exemple de la Suède, pays très progressiste s'il en est dans le domaine, où les enfants vont à la crèche, donc de 1 à 6 ans, l'équivalent de nos crèches et de nos écoles maternelles. Et on a quelques écoles expérimentales à Stockholm, hein, pour le moment, qui, en fait, proposent aux enfants une éducation absolument non-genrée. Donc déjà, lorsque l'enfant arrive à l'école, ce n'est pas un garçon ou une fille, c'est un individu et c'est un enfant. Afin de s'adresser à ces enfants, le corps social et éducatif utilise un pronom qui est neutre, qui a été créé dans les années 60 en Suède et qui permet de dénominer en fait un être humain sans sexe, de manière neutre. Donc ça permet vraiment de se concentrer sur l'individualité, sur le petit, et non pas sur la petite fille ou le petit garçon. Bien évidemment, dans ces crèches et dans ces écoles, on n'a pas de petits nœuds dans les cheveux roses, on n'a pas les murs peints en bleu, on n'a pas Cendrillon, Blanche-Neige et les Sept Nains et autres contes très stéréotypés et très genrés. Et on a des tas de livres qui racontent des histoires de pompiers, d'infirmiers, de jardiniers qui ne sont ni dénominés comme des hommes ou des femmes et qui permettent aux enfants de se projeter sur un travail futur et des activités sans être sclérosés par leur sexe. Ces deux écoles accueillent actuellement 150 enfants. Il y a des très longues listes d'attente des populations pour y inscrire leur marmaille. Et on sait que c'est soutenu par le ministère de la Parité. Malgré tout, ça reste quand même très polémique, tant sur la nature des crèches que sur l'emploi du pronom neutre Hen, H-E-N. Le dernier outil, qui est lui beaucoup plus polémique et qui est beaucoup plus récent, en fait, c'est la non-divulgation du sexe de l'enfant. On a deux cas assez récents qui sont très connus. Le cas de Pop, un enfant qui a 6 ans, qui est né en Suède, Suède toujours. Et le plus récent, c'est Storm, un petit enfant de 2 ans qui est né au Canada. Donc les parents ont décidé à la naissance de ne pas dévoiler le sexe de l'enfant. C'est-à-dire que les seules personnes qui connaissent son sexe biologique, ce sont les parents, les sages-femmes présentes lors de l'accouchement et le corps médical qui suit la santé de l'enfant. Donc ils ont des sortes de dérogations des gouvernements pour pouvoir garder l'intégrité du secret sur le sexe de l'enfant et élèvent leur enfant, bon, à la maison en l'occurrence, sans dévoiler le sexe. Donc l'enjeu est de savoir comment va s'orienter l'enfant, qu'il développe son individualité sans être coincé dans des stéréotypes de genre et de voir un peu son développement personnel en fonction de ses aspirations propres. Alors Storm en plus est particulier, Storm c'est le troisième enfant du couple de parents et il a déjà deux frères. Les deux frères bien évidemment avaient été élevés dans une orientation assez libre et assez féministe, donc les petits garçons pouvaient dès leur plus jeune âge s'habiller, se coiffer comme ils le souhaitaient. Le frère aîné de Storm d'ailleurs à 7 ans a des longues tresses et des petits nœuds dans les cheveux et met des jupes, des pantalons ou des robes comme il lui sied. Alors cette éducation là fait l'objet d'énormes polémique, bien évidemment, puisqu'on a tout le corps social, pédagogique et psychologique qui se rue sur les parents en parlant d'expérimentation, d'enfants cobayes, de parents irresponsables, qui pointent du doigt le fait que ces parents, sur des lubies pseudo-progressistes et féministes, veulent désaxer leur enfant, que Storm et Pop seront complètement perdus sans les codes de genre, qu'ils en feront des monstres asociaux qui ne sauront pas s'inscrire dans la société. Bon, bien évidemment, les gens ne se posent pas forcément la question, enfin certains se la posent, de savoir quel est le problème. Est-ce que c'est Pop ou Storm qui aura un problème fondamental, ou est-ce que c'est les gens autour et le regard qu'ils portent sur ces enfants, qu'ils n'arriveront pas à identifier en fonction des codes qu'on a établis aujourd'hui. Donc la plupart des personnes critiquent vivement cette expérimentation, le mot est assez fort, même s'il n'est pas complètement faux. Mais les gens ont tendance à oublier qu'on a expérimenté des choses très, très intenses au cours des siècles, que les premiers métis étaient considérés comme des parias, des expérimentations de race qui n'avaient pas lieu d'être, que les premiers enfants de couples mixtes, par exemple de deux religions différentes, étaient également portés aux marges de la société, on considérait qu'ils n'avaient pas de repères pour s'épanouir, que les enfants de divorcés, dans les années 90, ça, ils en avaient beaucoup sur le dos, les enfants de divorcés, bon, on se rend compte qu'ils arrivent à se structurer, et on a actuellement la même question avec les enfants issus de l'homoparentalité. Donc cette vision nouvelle qui vise à balayer les codes du genre sur lesquelles toute la société est établie est très mal acceptée par le milieu social, psychologique et médical, même si certains au contraire soutiennent les deux familles de Pop et de Storm et espèrent que ces tentatives d'éducation alternative permettront de mettre fin au mythe comme quoi les enfants ont une prédestination en fonction de leur corps et de leur sexualité. Catherine Vidal, la neurobiologiste, nous a prouvé et a confirmé qu'il n'y avait aucune différence entre le cerveau d'un homme et d'une femme, et également que les enfants avant l'âge de la puberté n'avaient aucune distinction physique ni influence hormonale. Un garçon et une fille avant la puberté, c'est physiquement, physiologiquement exactement la même chose. Et un homme et une femme, tout au long de leur vie, ont le même cerveau. Donc reste à savoir ce que donnera les vies de Pop et de Storm, en espérant que la société qui les entoure ne les rejettera pas, car c'est vrai que la nouveauté, l'alternatif, fait peur.
Je déteste le sexe. Depuis mon enfance, je n'éprouve aucun désir, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Mes copains à l'école rêvaient de chattes et de nichons, et moi je restais là, t'es un vieux cornichon.
Pédale.
Éric Fassin, à nouveau bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes là rentrés dans une dernière séquence de notre nuit du genre, puisque nous sommes rentrés dans la séquence genre à venir. Aussi, on s'interrogeait, non, sur l'avenir de l'humanité, de savoir si aujourd'hui nous pourrions demain nous inventer. Devenir martien, devenir luciole, devenir n'importe quoi, un peu comme disait Deleuze, c'est-à-dire finalement passer à une phase très concrète de se devenir n'importe quoi. Et nous aurions aimé avoir votre regard sur tous ces fantasmes qui s'ouvrent à nous désormais.
Écoutez, moi je ne suis pas sûr d'être capable de donner des conseils sur la possibilité de devenir luciole ou autre. Mais il me semble que la question qui se pose depuis des années, c'est celle de l'invention. C'est une question qui était posée par Michel Foucault, en particulier au début des années 1980, lorsqu'il réfléchissait au fait que, au lieu de penser qu'on sait ce qu'on veut dire quand on dit homosexuel, il faudrait s'acharner, disait-il, à devenir homosexuel, c'est-à-dire il ne s'agissait pas de découvrir sa vérité authentique, mais d'essayer de produire quelque chose. Et produire quelque chose, ça se jouait en particulier autour de l'invention de manière d'être et de type de relation. Je crois que ce programme très important, en même temps, il reste toujours à définir, c'est-à-dire que ce que nous voyons, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est que la politique autour du genre, autour de la sexualité, elle se joue d'abord dans un registre qui est le registre démocratique classique, c'est-à-dire celui de la liberté et de l'égalité. Mais à partir du moment où on se dit que les normes ont perdu leur évidence, ça ouvre une possibilité. C'est de se dire, puisqu'elles ne sont pas données une fois pour toutes, nous allons pouvoir essayer de les reconstruire. Alors, il y a eu des grands projets utopiques, mais il me semble que ce qui se joue aujourd'hui est peut-être plutôt du côté des bricolages. Des bricolages qui sont en partie individuels. Nous tâtonnons pour essayer de bricoler des nouvelles organisations de vie, des nouvelles formes de relations. Ça ne veut pas dire qu'il suffise d'une sorte de bonne volonté politique pour arriver à réinventer le monde tous les matins et à devenir autre et à forger des relations radicalement nouvelles. Mais ça veut dire que, au lieu de se contenter comme d'une évidence du fait que c'est ainsi, par exemple, que le couple ça fonctionne, ou bien c'est ainsi que la sexualité ça fonctionne, ou bien c'est ainsi que la famille ça fonctionne, eh bien je crois qu'aujourd'hui on est amené à y réfléchir.
Eh ben, ça nous fait beaucoup de bricolage en perspective, toutes ces informations. Merci beaucoup, Eric Fassin, de nous avoir suivis pendant toute cette nuit du genre et nous avoir encore mieux éclairés sur ce qu'est le genre à venir.
Moi, je vous remercie et puis je souhaite à tout le monde donc une très bonne nuit du genre ou un très bon genre de nuit.
Merci, Eric Fassin.
Au revoir.
Au revoir.
Un très bon genre de nuit pour Eric Fassin. On le remercie encore d'avoir été parmi nous. C'est un honneur qu'on a eu de l'avoir dans ces studios. On va passer à un mot qu'on a déjà utilisé plusieurs fois, un mot cyborg. On retrouve Hélène, notre Bernard Pivot de la soirée, qui a été tout le long avec nous pour nous donner des petites définitions de mots très importants. Donc cyborg, moi je propose de l'écouter tout simplement.
Cyborg. Cyborg est un mot d'origine anglaise qui veut dire organisme cybernétique. Alors ce terme de cyborg a été popularisé dès les années 60 dans la science-fiction. Il s'agit d'un humain amélioré ou d'un homme-machine. Or cet homme-machine, depuis Descartes et la maîtrise, c'est un impensé fondamental de l'imaginaire occidental. Le premier cyborg, c'est Terminator. Nous avons également des cyborgs qui sont appelés des androïdes. Et ces androïdes sont appelés tels parce qu'ils ressemblent à des êtres humains. Évidemment, l'être humain étant réduit à l'homme, au masculin, puisque Andros, c'est le résumé de masculin. Alors, cet androïde est un robot, mais qui est construit à l'image de l'être humain. Alors, pourquoi parler des cyborgs ? Parce que nous sommes tous des cyborgs. Nous sommes tous des cyborgs, et ce, depuis la mise en réseau, le développement des nouvelles technologies de la communication et de l'information, comme les appellent les filles Michel Serre, nous sommes des poussettes, c'est-à-dire que les jeunes filles et les jeunes dames, et même maintenant les plus âgées comme moi, ne peuvent pas vivre sans leur smartphone, sans leur téléphone, avec l'oreillette branchée à l'oreille. Alors nous sommes tous des cyborgs, et à tel point que la question peut se proposer si nous sommes encore, comme dans la série suédoise qui a connu un grand succès en Suède et au mois d'avril en France, 100% humains. Sommes-nous toujours 100% humains dans la mesure où nous devons nous connecter, nous brancher, nous recharger exactement comme des machines. Donc la limite entre l'homme et le cyborg, elle est présentée par un manifeste qui est le dernier manifeste féministe du mouvement de la troisième vague de féminisme, le mouvement queer post-féministe, qui se prétend nous sommes tous des cyborgs et nous sommes des femmes cyborgs, machines. Et donc la distinction entre animal, homme, machine n'existe plus.
Il est 1h47, bientôt, nous sommes toujours dans les studios de Radio Grenouille. Toujours on tient le coup, Quentin est là, Mélanie, Emmanuel, assis dans une position tout à fait lascive sur un fauteuil rouge. Vous ne pouvez pas le voir, mais c'est assez agréable à observer, Romain, Lauriane, Julien. On est tous là. Vous imaginez comment, comme robot, comme cyborg?
On s'imagine comment? Ouais. Ou comment on imagine le cyborg?
Non, toi en cyborg, Quentin,
c'est
non.
Avec des lunettes.
Il faudrait un petit robot assez gros avec des lunettes et bouclé, c'est inenvisageable.
Non, c'est pas mal comme...
Avec des boulons.
Ouais, c'est chaud. Non, ça marche pas, je le vois pas.
Ça marche pas? Une idée?
Aucune idée, non.
Non, non. Ah, c'est trop loin, c'est trop futuriste.
Ouais. Hein, j'arrive pas.
On n'y arrive plus. Ok, Lauriane, tu veux ajouter quelque chose? On aurait dû avoir Yann Min
en interview. Ouais, il y a énorme ou tout petit souci technique et du coup, on va peut-être pas parler de transhumanisme ou de la politique marxiste sur les transhumains, les post-humains, etc.
Ce sera pour une prochaine fois.
Oui.
Romain?
Oui.
On enchaîne?
Allons-y, je crois que...
Davai.
Corben Wallace est enfin arrivé du futur. Après avoir atterri sur l'esplanade du Vieux-Port, le personnage interprété par Bruce Willis dans Le Cinquième Élément a fait sa première conférence de presse cet après-midi au Stade Vélodrome. Il est très heureux de faire partie de la race de ses ancêtres, race qui, selon lui, a aboli la frontière des genres. Il a également déclaré vouloir résider dans le nord d'Aix-en-Provence, dans le quartier Besson, seul lieu où il ne sera pas dérangé par les photographes. De la Terre, direction les étoiles, celle du berger plus exactement. La planète Vénus est, comme tout le monde le sait, une femme élégante et raffinée, toujours vêtue d'un bleu émeraude à l'apparence vaporeuse. Mais selon les dernières études de la NASA, Vénus serait un homme les soirs de pleine lune, viril et habillé d'une carapace rouge sable. Vous aurez reconnu la planète Mars. Les deux sphères ne sont en réalité qu'une seule et même personne. Cette étonnante découverte donne plus de précision sur le lyrisme des brumeux champs de Mars, mais malheureusement pas sur les champs cataloniques de Barcelone. La nouvelle a provoqué la division au sein de la communauté loup-garou entre les fidèles à la Lune et les dissidents adorateurs de la nouvelle divinité, Marnus. Rencontre du troisième sexe. Cet après-midi, une quinzaine de personnes se sont réunies pour défiler dans les rues de Rocamadour, dans le département du Lot. Leur message, que leur sexe soit écrit sur leur carte d'identité. Ils aimeraient y voir figurer Homo Stradivarius en lieu et place d'homme ou de femme. Rappelez-vous, il y a un mois, le biographe de Barry White avait révélé que le chanteur n'était pas un homme, mais une personne dotée d'une sexualité d'un nouveau genre. Ces fameux Stradivarius ont pour appareil génital leur corde vocale. À Rocamadour, c'est Jean-Stéphane Spielberg qui a organisé ces rencontres du IIIe siècle avec en point d'orgue une messe au sanctuaire du village. Cet office s'est achevé par un gargarisme orgasmique de liqueur de chêne. Et selon nos dernières informations, l'actrice Jeanne Moreau a déclaré sur son site internet être très émue d'enfin pouvoir assumer sa nouvelle sexualité sans crainte. Et enfin, rajoutons qu'il existerait environ 100 000 Homo Stradivarius dans le monde.
On est ravis de l'apprendre.
Tout ça.
Romain, on est parti très très loin. Merci. Je ne sais pas si ça fait autant rire nos auditeurs que nous, mais en tout cas, on est ravis.
Est-ce qu'ils sont aussi fatigués que nous? C'est un peu la question.
Ah, c'est la question.
On ne saura pas. Alors, on va continuer avec une sélection musicale de Julien, hein, qui tient vraiment à passer ce titre. Les femmes, ça fait PD.
On adore ça.
Interprété par Régine, un texte de Gainsbourg. On y va tout de suite.
Les femmes, ça fait péder, c'est très efféminé, tellement efféminé que ça fait péder. Les femmes, ça met des jupes, non mais de quoi je m'occupe? Les femmes, ça met des bas, nylon soie. Les femmes, ça fait péder, c'est très très efféminé, tellement efféminé que ça fait péter. Les femmes, ça met du rouge à lèvres, et quand ça bouge des hanches, ça fait marcher les PDG. Les femmes, ça fait péder, c'est très 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 efféminé, tellement efféminé que ça fait péder. Les femmes, ça se parfume, les femmes, ça boit, ça fume, des liqueurs de banane et des havanes. Les femmes, ça met du rouge à lèvres, et quand ça bouge des hanches, ça fait marcher les PDG. Les femmes, ça fait péder, c'est très 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 efféminé, tellement efféminé que ça fait péder. Les femmes, ça fait tellement efféminé, qu'il y a plus d'un PD qui est resté.
Les femmes, ça fait
c'est
péder.
Bon, ça.
Ouais, c'était sympa. Hein. C'était Régine, donc tout le monde la connaît. Sur un texte de Gainsbourg. On continue en musique et on va se quitter en musique. On va continuer jusqu'à
doucement,
la fin de l'heure doucement.
Ouais.
On va écouter un peu d'amour avec Etta James. C'est une reprise. C'est une reprise de Etta James qui s'appelle Sweet Touch of Love. Vous allez voir, c'est soul. Tout de suite.
Just a drop of a name begins to sting your very toes. That's the sweet touch of love. Oh, yes, it is. Just the thought about you would blow my mind. That's the sweet touch of love. Oh, yes, it is. I was about to give up, but you came just in time. With your sweet touch of love.
Il est 1h56, vous êtes en direct dans la nuit du genre, on touche vraiment, vraiment, vraiment à la fin là bientôt, sur Marseille, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Orléans, Paris, Rennes, Toulouse, et à la demande générale. Je ne contrôle plus cette émission, c'est un bordel sans nom. À la demande générale, pour avant de finir avec le dernier morceau, on va s'écouter Sexy Sushi, Sexy Sushi, je dis oui. C'est parti. Un petit peu de Larsen avant de se quitter, c'était la nuit du genre. Retransmise sur Radio Grenouille et sur plus de 10 radios campus en France, à savoir Orléans, Paris, Brest, Bordeaux, Bézac, Grenoble, Toulouse, Rennes et Clermont. A noter qu'également Avignon, Paris et Orléans ont eu la curiosité de venir visiter les studios de Radio Grenouille. Il me reste 30 secondes pour dire merci à tout le monde qui nous a suivis depuis 21h. Pour les plus courageux, si vous avez pris en route l'émission, le voyage, la rêverie, que dis-je, la rêverie, la performance à travers le genre, les genres, enfin la classification qui n'ont plus lieu d'être à 7. Et si vous ne savez depuis 21h que vous ne savez plus pourquoi, eh bien pour les autres, il vous reste le Tumblr, nuitdugenre.tumblr.com. Et pour le cours de rattrapage, un grand merci à Radio Grenouille pour l'accueil et tous les Radio Campus de France et de Navarre, à Jean-Baptiste Gilali pour la technique. Maintenant, c'est tout de suite, c'est la suite de la nuit du genre jusqu'à 5h30 du matin. On applaudit tout le monde.
Bravo, merci, hein.